après deux séries à avoir tendu le micro à des patients, Abdelawa Sheria, victime du centre dentaire d'Antexia et cofondateur de l'association La Dent Bleue, puis Sabrina Lebars, patiente partenaire et cofondatrice de l'association Corasso, qui sensibilise au cancer tête et cou, nous allons revenir vers une dentiste, mais qui a la particularité d'être aussi passée de l'autre côté du fauteuil. Marion Megli est chirurgienne dentiste, d'abord omnipraticienne, elle s'est progressivement orientée vers un exercice exclusif en endodontie. Ce choix, elle va nous le raconter dans ce premier épisode. Mais ce que je vous expliquais juste avant, c'est que Marion a aussi expérimenté la position inconfortable, parfois traumatisante, que vivent nos patients. À 22 ans, encore étudiante, Marion a été confrontée à une gêne lors de la mastication. Un examen a révélé une importante destruction osseuse au niveau de ses incisives, conséquence d'un traumatisme non traité survenu à l'âge de 12 ans. Après extraction, greffe et pose d'implant, un de ses implants a échoué 10 ans plus tard. Entre tristesse et résignation, Marion a dû affronter son mal-être, un sentiment qu'elle aurait préféré garder pour elle, mais qui est devenu visible aux yeux de tous. Cette expérience a transformé sa vision des soins dentaires, c'est ce que nous explorerons plus en détail dans une deuxième partie. Ce que nous explique Marion, c'est qu'il lui a fallu faire avec cette nouvelle image de soi, et avec un sourire qui n'arrête pas de changer. Elle nous explique aussi que ces différentes interventions ont eu un impact à la fois au niveau psychologique bien sûr, mais au niveau organique aussi. Elle a ressenti une forte diminution d'énergie, une perte de vitalité, une dévitalisation comme nous l'expliquait Abdelawa Sheria dans une des séries précédentes. Ce qu'elle nous raconte aussi, c'est qu'au travers de son vécu, elle est parvenue à mieux comprendre certains comportements de nos patients, qui peuvent parfois nous sembler irrationnels et même nous exaspérer. Et la compréhension de cette dimension émotionnelle a fortement contribué à donner encore plus de sens à sa pratique. Marion fait partie des très belles rencontres qui jalonnent mon aventure dans le podcast. Elle s'est livrée à moi sur un sujet sensible pour elle, et je la remercie pour sa confiance. Elle voulait que je coupe son rire qu'elle trouvait trop présent. Désolée Marion, mais j'ai pas pu. Et Pauline, ma réalisatrice son non plus d'ailleurs. Nous sommes tombées d'accord toutes les deux qu'on ne pouvait pas censurer une telle joie de vivre. Et moi-même, je me trouve d'ailleurs assez exaltée dans cet échange, preuve que le contact est bien passé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à discuter avec Marion. Bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Florence.
Bah écoute, moi je suis ravie d'être avec toi ce matin, on va passer un petit moment ensemble. Alors l'idée, c'était... avec toi, d'aborder en fait deux facettes. Bon, si tu as écouté les séries précédentes, alors que au tout début du podcast, je me suis vraiment tournée vers le monde dentaire et je ne m'étais pas peu intéressée finalement aux patients et jusqu'à ce que je prenne la dimension en fait de cette lacune, puisque les patients, sans eux, ben, on n'existe pas et c'est aussi notre raison d'être. Toi, on va pouvoir aborder les deux angles. Donc, l'angle professionnel avec ta discipline qui est l'endodontie et qui est assez spécifique, et aussi le côté patient, puisque toi, tu as vécu, on va dire, des soins et peut-être même des traumatismes dentaires qui font que tu as pu expérimenter l'autre côté, et ça a énormément enrichi ta pratique. Donc, on va pouvoir parler de tout ça.
Je te remercie de m'avoir invité.
Donc, déjà, moi. Toujours, j'aime bien comprendre un peu l'origine de l'orientation vers le choix de la dentisterie. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était plutôt médecine et puis finalement, tu as eu dentaire? J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu.
Alors moi, c'est un métier que j'ai découvert assez tôt, à l'adolescence, parce que j'ai eu surtout le métier d'orthodontiste, puisque j'ai eu un appareil dentaire à cette époque-là. Et j'étais déjà intéressée par ce métier-là, puisque je me souviens que dans mes choix de collège, il faisait partie de mon top 3. Entre architecte et prof de sport, il y avait orthodontiste.
C'est assez éloigné,
mais... Voilà. Mais c'était mes trucs du moment, je pense que j'y passais beaucoup de temps. Et puis quand il a fallu faire le choix en terminale, là j'étais un peu plus dans le flou. J'avais un profil qui pouvait un peu tout faire, donc je savais pas. Et puis c'était un peu le grand saut dans le vide, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie. Ça me faisait très peur d'aller en médecine à l'époque, parce qu'il y avait l'amphithéâtre, le côté amphithéâtre, où il y avait un peu de bizutage, etc., où je me sentais un peu fébrile. Et donc, j'ai pas passé ce cap tout de suite. J'ai d'abord été en prépa maths. Je ne sais pas du tout pourquoi ça me faisait moins peur, parce que c'était juste horrible, en fait, comme expérience. Donc, j'ai très vite compris que j'avais rien à faire là-bas, mais j'ai quand même fini mon année. Et ça m'a donné quand même quelques bases pour me sentir peut-être un peu plus armée et ensuite aller donc en médecine, avec ce choix dès le départ de faire dentaire. Pourquoi ? Parce que c'était un métier à la base qui m'attirait pour le côté manuel, scientifique et libéral. Le côté indépendant, je savais que j'avais envie, je ne sais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je ne voulais pas de patron. Donc, c'était un métier qui regroupait ces trois facettes-là.
Et la dimension du soin et du patient et ce côté humain, ça rentrait dans l'équation ?
Non, je ne l'avais pas. Non, je ne l'avais pas. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais un peu trop centrée sur moi, en toute honnêteté.
Bah oui, je pense qu'il y a différents profils. Je pense qu'on va en reparler parce que ça résonnera beaucoup, mais le vécu est important. Je pense que quand tu as vécu, ou peut-être pas forcément des traumatismes, mais dans ton environnement, des gens qui ont eu des maladies, qui ont eu des choses qui t'ont un peu marqué, ça peut t'amener à comprendre cette dimension humaine qui va prévaloir par rapport peut-être au reste. Après, moi, quand j'en discute avec mes enfants qui sont ados et pré-ados, c'est assez intéressant de voir que il y a quand même un moteur important aujourd'hui qui est l'argent, quoi. Et même quand ils évoluent dans des environnements où on parle beaucoup d'humains et où on fait très attention à tout ça, il y a quand même la réussite. C'est avant tout la réussite financière qui est placée en avant.
Alors, ou l'indépendance. Il est vrai que j'avais discuté de ça un petit peu avec mon médecin traitant qui, lui, m'avait dit « Mais surtout, ne fais pas médecine. » vraiment dentaire. Enfin, lui, il m'avait vraiment orienté là-dedans. Et mes parents, c'est vrai, à l'époque, m'avaient dit c'est un métier où finalement tu peux gagner ta vie correctement tout en travaillant pas tant que ça. Enfin, peu. Enfin, avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale convenable, puisque c'est vrai qu'en tant que femme, mère, on a aussi envie d'avoir du temps avec ses enfants. Et donc, de pas forcément faire 50 heures par semaine, quoi.
Et durant tes études, après, comment ça s'est passé déjà ? Comment tu as vécu tes années d'études, que ce soit au niveau de l'apprentissage, mais aussi au niveau de l'ambiance, est-ce que tu te retrouvais dans les valeurs qui t'étaient proposées, on va dire, à l'université ?
J'ai fait ma P1 à Tours et ensuite, j'ai eu le choix de partir soit Nantes, soit Rennes, soit Clermont-Ferrand, soit Montpellier. J'ai choisi Nantes pour une raison de proximité par rapport à Tours. Et quand je suis arrivée, on était une promo de 50, moitié de Nantais et moitié d'extra, on va dire ça comme ça, qui venaient du Mans, d'Angers, de Bordeaux et donc de Tours. Et c'est vrai que au début, il faut trouver ses marques. L'ambiance était plutôt conviviale entre les étudiants. Et je pense que, enfin, j'ai des bons souvenirs quand même de mes années d'études. Moi, en deuxième année, je me suis sentie un peu, un petit mal-être, dans le sens où je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de cohésion, de solidarité entre les étudiants. J'avais envie de plus que ça, parce que je me sentais peut-être un peu seule. Et du coup, je me suis rapprochée de l'association étudiante. J'avais fait un petit sondage auprès des étudiants pour savoir si j'étais la seule à ressentir un petit peu ce malaise, ou s'il y avait d'autres personnes qui ressentaient ça. Et puis, les résultats de ce sondage m'ont montré que ça valait le coup peut-être d'essayer de mettre en place certaines choses. Donc, je me suis rapprochée de l'association des étudiants. Et puis, j'ai passé quand même de bonnes années d'études grâce à ça. Parce que je me sentais utile, investie pour essayer de créer du lien, de la cohésion entre les étudiants. J'étais aussi déléguée de promotion. Pour ça, c'était un bon souvenir au niveau théorie.
Ouais, finalement, tu t'es mis en mouvement, quoi. C'est-à-dire que t'es pas resté sur cette première impression et peut-être passive.
Ouais, c'est vrai que j'avais besoin d'être dans l'action. Après, au niveau des études, ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Ça a toujours été facile parce que j'étais à l'aise manuellement et puis que ça me plaisait. Et donc, du coup, j'ai déroulé sans aucun souci. Ouais.
T'as trouvé, toi, pendant ces années de formation et d'accompagnement, qu'on était sensibilisé à la relation patient, que le patient était vraiment au cœur de la profession ?
Alors, j'avais été sollicitée par un enseignant pour intégrer une unité de soins auprès des patients séropositifs. Et là, dans ce cadre-là, il m'avait dit, voilà, je souhaite des étudiants qui ont... peut-être cette... À l'époque, je n'avais pas trop compris pourquoi il m'avait sollicité, moi, mais ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il recherchait voilà, des étudiants qui étaient dans une... Ouais, qui avaient peut-être une empathie, ou en tout cas une approche, et qui n'avaient pas peur de l'autre aussi, qui n'avaient pas d'appréhension par rapport aux patients, et puis qui techniquement étaient en capacité de faire les soins de façon aussi rapide et dans un certain confort de soins, quoi. Donc ça a été la première vacation où je me suis dit je dois créer une relation de soins en fait, parce que jusque-là j'étais dans mes contrats, fallait que je fasse mes cavités, mes points, mes machins, donc ça nous oriente aussi dans la technique, mais là on me demandait en plus de faire un accompagnement en fait de ces patients qu'on jugeait un peu plus vulnérables, quoi.
C'était en quelle année ? Enfin, toi, t'étais
c'était
en quelle année ?
C'était en cinquième année, ouais.
Ouais, et c'était dans quel cadre, dans quel service, dans quel cadre ?
Bah, c'était de l'odontoconservation, mais c'est vrai qu'il y avait cette vacation spécialisée pour les patients séropositifs, où il y avait donc des dispositions particulières à prendre, voilà.
Ouais, c'est intéressant, ça. Et alors, quelques années plus tard, après, donc... n'aura pas le temps de tout dérouler parce qu'après on va avoir d'autres sujets à aborder, mais pourquoi l'endo et qu'est-ce qui t'a en fait éveillé ou donné envie de pratiquer cette discipline et d'en faire ta principale activité, quoi?
Alors ça n'a pas du tout été naturel au départ. Moi, quand je me suis installée assez rapidement parce que j'ai vite compris que je voulais pas être chez quelqu'un, que j'avais envie d'être chez moi. Et donc, j'ai acheté un cabinet individuel. Et au bout de 2-3 années d'exercice, à trimer, c'est les premières années où on est tout seul et où on fait tout, et commencer sans assistante, enfin à tout créer, quoi. Je me suis rendu compte que j'étais un peu en décalage avec ce que je voulais. Que moi, mon leitmotiv de l'époque, et c'est toujours celui d'aujourd'hui, c'est de soigner les gens comme j'aimerais être soignée moi-même. Et le rythme que j'avais à l'époque faisait que j'étais obligée de constater que ce n'était pas forcément le cas. Et en endo, c'était ma plus grosse frustration. Parce que je m'étais formée à tout ce qui était prothèse. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de faire de la belle prothèse si on n'avait pas des belles fondations. J'ai eu des bris instrumentaux. Toutes ces choses qui m'ont emmenée un peu dans un cercle vicieux où j'étais tombée dans de la dévalorisation. Je me disais que c'était nul ce que je faisais, que c'était pas à la hauteur de ce que je voulais, etc., etc. Et à un moment donné, ça j'en parle dans une de mes conférences que j'ai fait là, qui s'appelle « Qui ne se plante pas ne pousse jamais
». C'est bien, les conférences sur les échecs, finalement on en a peu, hein, on en a beaucoup plus... Qui valorisent leur travail. Alors, ça commence à venir, hein, mais...
Alors là, en fait, ce qui me tenait à cœur de montrer dans cette conférence, c'est de se dire, à un moment donné... Bon, là, je prenais l'exemple du bris instrumental pour faire le lien avec l'endodontie. Hein, mais à un moment donné, quand on est dans la frustration et quand on cherche tous les arguments à l'extérieur de soi pour justifier que l'instrument il a cassé, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause du système de préparation, c'est à cause de l'assistante, c'est à cause qui a pas fait l'assister correctement, ou du patient qui a bougé à ce moment-là, ou X, quoi, enfin toutes les raisons qu'on peut trouver, et ben en fait on n'avance pas. Et qu'au final, quand j'ai réalisé que, bah, qui c'est qui tenait l'instrument, qui c'est qui décidait de le mettre dans la bouche, qui c'est qui avait décidé de faire cet endo alors que peut-être elle était trop complexe pour moi, bah, au final, c'était moi, quoi. Et quand je me suis rendu compte, dans un état un peu de sidération, que le problème, c'était moi, ça a été la première phase où j'ai pu bah, me dire, bah, si c'est moi le problème, c'est aussi moi la solution. Qu'est-ce que t'attends pour te former? Qu'est-ce que t'attends pour aller dire que ça va pas, quoi? Et c'est là que j'ai rencontré, du coup, la SFE locale. Je suis allée à une première soirée et j'ai eu l'impression de faire un gros mea culpa en disant « Oh, mais c'est une catastrophe, je casse, j'ai cassé, j'ai même cassé un opener !» Et puis, du coup, j'ai rencontré des gens super chouettes qui m'ont dit, bah, qui avaient un peu d'expérience, qui m'ont dit, non, mais attends, on est tous passés par là, t'inquiète pas, il y a des formations qui existent, faut pousser le truc, tu vas à Paris, tu vas apprendre et tout. Et donc, bah, voilà, je suis sortie de ma grotte un petit peu, et puis, j'étais me former à la SFE à Paris, et là, ça a été vraiment une révélation pour moi, ouais.
Le microscope aussi?
Bah, le microscope, enfin, de découvrir que quand on tout ce qu'on ne voit pas, et puis c'est comme porter une nouvelle paire de lunettes sur le monde, quoi. C'est et puis une fois qu'on sait, qu'on voit ça, pour moi il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que je me dis mais non, je peux plus faire semblant, je peux plus faire genre je ne sais pas ou j'ai pas vu. Oh, il n'y a pas de MV2. En fait, je ne l'ai juste pas cherché, tu vois. Et donc, du coup, maintenant que je sais, là, à la fin de la formation de la SFE, ouais, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. J'avais envie d'avoir un microscope. Et puis, je me disais, non, mais en omnipratique, vraiment, si c'est pour acheter un microscope et le laisser dans un coin, ça ne vaut pas le coup.
Ouais.
Donc, du coup, j'avais besoin de me rassurer sur le fait que j'allais pouvoir vraiment m'en servir en omnipratique. Le valoriser dans mes actes. Enfin, tout ça, ça a été des étapes qui se sont faites au fur et à mesure du temps.
Ouais, c'est pas on-off, en fait. Tu passes pas de l'omnipratique à l'endo du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi s'entourer d'un réseau de dentistes, de correspondants. Et puis, les patients que tu avais en omni, comment t'as géré, en fait, après le passage à l'endo exclusive?
Bah alors moi déjà, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aussi prendre en charge les patients des autres. Ça, c'était une deuxième étape. La première étape, c'était déjà soigne tous tes patients. Et donc j'ai fait un DU pour ça à Nantes qui m'a confortée dans l'idée que j'étais à l'aise sous microscope, que vraiment c'était mon truc, que j'aimais ça. Et donc, à l'issue de ce DU, j'ai investi dans le microscope et j'ai commencé à faire mes soins d'endo en omnipratique. Et donc là, j'ai été confrontée à un problème financier, puisque je prenais beaucoup plus de temps, mais que je ne les valorisais pas forcément en me disant « de toute façon, tu as la prothèse, etc. » Donc voilà. Mais ça devenait un peu compliqué financièrement. Donc j'ai ouvert des vacations... Dans mon emploi du temps, je me suis bloquée des créneaux. Je me suis dit, le mardi matin et le jeudi matin, ce sera que pour les patients dont s'y adresser. Finalement, j'ai même pas eu besoin de faire de la publicité dans le bouche à oreille. Les correspondants autour ont su que j'avais eu un DU, que j'avais un microscope. Sur Poitiers, il y avait un cabinet d'endo, mais qui était saturé. Donc finalement, comme ça s'est fait. Et puis comme ça, j'ai travaillé pendant 3 ans comme ça, en ayant une double activité, omnipratique, endodontie. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait peut-être bien que tu fasses un choix, parce que ça devenait compliqué. Et donc, j'ai opté pour limiter mon exercice exclusif à l'endodontie.
Tu trouves que ça simplifie les choses d'avoir un exercice limité à une seule discipline ? Aujourd'hui?
Oui, parce qu'en omnipratique, je trouve que c'est la spécialité qui est la plus difficile, parce qu'on nous demande d'être bon partout. On se demande d'être bon partout. Or, c'est vrai que c'était, c'était compliqué. Et quand on a cette exigence avec nous-mêmes pour nos patients, on est frustré, quoi. Donc moi, je m'étais mis des barrières. Je m'étais dit, bon, bah, l'implant, je ne le ferai pas. La chire paro trop complexe, je ne le ferai pas. Donc je m'étais mis des barrières. Comme ça, pour rester dans mon cadre, en omnipratique, où je savais que là, je pouvais y aller et que j'étais bien. Je n'avais pas de problème à déléguer pour toutes ces parties-là. Et c'est marrant, comme en tant qu'omnipraticien, on a plus de mal à déléguer en endo. Souvent, on se dit, non, mais l'endo, je suis censée savoir la faire, en fait.
Je pense que peut-être aussi lié à la rareté des exclusifs. Moi, par exemple, j'ai aucune difficulté à orienter en endo parce que c'est pas la discipline dans laquelle j'excelle, et donc j'en ai parfaitement conscience et je me suis pas formée en ce sens-là. Mais par exemple, là où je suis à Périgueux, pour envoyer en endo, c'est soit du côté de la Charente, enfin limite Gironde-Charente, donc il y a 1h30 de route, soit sur Bordeaux ou après. Et encore là, je te dis, depuis quelques années, on a de la chance, on en a à peu près à 1h30 de route. Hein. Avant, c'était, il me semble bien que j'avais envoyé chez un confrère. À Poitiers, il me semble.
Ah oui, on a du monde de l'Indre, de partout.
Donc c'est ça qui est un peu délicat, parce que le patient, il y a le facteur financier, où déjà tu lui expliques que sa dent est sauvable, mais qu'il y aura une partie qui ne sera pas du tout prise en charge. Ça, j'ai jamais eu de difficulté à ça. Le patient l'entend, il y a un côté conservateur, un côté cohérent pour lui, en fait, de garder sa dent et de ne pas l'extraire. Qui fait que ça c'est pas très compliqué. Par contre, la distance aujourd'hui, je pense avec aussi toutes les technologies qu'on a, qui fait que tout va très vite, qu'on a des choses très rapidement, on a plus de mal à le faire passer, quoi.
Oui.
Donc peut-être que ça rajoute une difficulté à la difficulté que t'évoquais de se dire que c'est un acte qu'on est censé maîtriser. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris que l'outil microscope, déjà, quand tu passes avec des loupes, t'as l'impression que tu découvres la vie, quoi. Tu te dis, mais il faut que je revoie tous les patients d'avant parce que j'ai dû tellement oublier de choses. Mais on voit bien qu'on travaille à l'aveugle, quoi, quand on fait une endo sans microscope.
Il y a plein de freins. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais omnipraticienne, je trouvais ça démentiel, les prix des endos. Donc, on a des croyances aussi qu'il faut casser, en fait. C'est tout ça, c'est des suppositions, c'est des filtres qu'on se met. Moi, je me souviens, je me disais, bon, je vais lui démonter la couronne et lui décor, comme ça lui fera déjà ça de moins chez l'endodontiste à payer. En partant du constat que le patient, il voudrait pas... c'était un service que je lui rendais.
Ouais, mais c'est surtout que tu te mets à sa place avec plein de suppositions.
Avec plein de suppositions, lui, il m'a rien demandé. Puis un jour, l'endodontiste, il me dit « Mais parce que toi, tu te fais pas payer quand tu enlèves la couronne et l'unicor. » Puis à l'époque, il n'y avait pas les codes des montages et tout ça. Je lui dis « Bah non. » Il me dit « Donc toi, tu considères que le temps de travail que tu passes, ça n'a pas de valeur. » Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, je dis « Bah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai quand même fait quelque chose. » Même si c'était pas un acte, c'était avant, tu sais, tous les actes nomenclaturés, là. Il y avait plein de trucs qui n'existaient pas, quoi.
Après, oui, on a des codes aujourd'hui qui limitent de plus en plus la possibilité de côté des choses qui n'existent pas dans la nomenclature. Hein. Ça devient un peu plus difficile.
Et donc, voilà, c'est intéressant de passer de l'autre côté de la barrière aussi, de se dire que bah, finalement, aujourd'hui, en endodontie, c'est ce qui me bloquait un peu au départ. Parce que j'aime bien l'idée de pouvoir soigner un peu tout le monde pareil. Même si je me rends compte que ce n'est pas forcément possible. Mais ce volet financier, ça a été un truc qu'il fallait que je dépasse. Et aujourd'hui, je me rends compte que je peux finalement, que j'arrive à soigner des patients qui ont des bas revenus, qui sont CMU, tout simplement parce que bah, pour eux, leur dent a de la valeur. Et que finalement, je ne soigne aujourd'hui que des gens motivés pour sauver leurs dents. Je ne force pas le soin. Je leur dis, voilà, il y a toujours une alternative. C'est l'extraction et c'est OK si ça vous convient. Et après, il faudra simplement gérer le problème de l'absence de la dent. Mais si c'est OK pour vous, bah voilà, choisissez ça. Il n'y a pas de problème.
Moi, ce qui me ferait peur, tu vois, en endo, mais parce que justement, encore une fois, ce n'est pas une discipline que je maîtrise, c'est la peur de l'échec et de me dire, le patient a investi, il a cru en moi et j'ai peut-être surestimé mes compétences, mes capacités à sauver la dent et la dent, en fait, aller à extraire, quoi.
Ouais. Alors, pour ça, effectivement, il y a quelque chose que j'ai changé entre l'omnipratique et la spécialité que je ne faisais pas en omnipratique et que je conseille en formation de dire. C'est de prévenir avant le patient, d'expliquer que l'endodontie, bah, ça n'a pas des taux de succès de 100%. Quand on fait une pulpectomie, même dans les règles de l'art, avec la digue et tout ce qu'on veut, on a des taux de succès qui sont de 97%. Donc de toute façon, il y a des risques d'échec, même quand le traitement est bien fait. Et que quand on est sur un retraitement, globalement, on est à 80% de taux de succès. Donc moi, en consultation, j'insiste sur l'échec. Je lui dis, voilà, il y aura potentiellement 20% de risque d'échec. Je vais faire du mieux que je peux, ça je vous le garantis, mais je ne peux pas vous garantir le 100%. Si vous voulez un truc 100%, ben, c'est l'extraction après. Et ça, une fois que c'est dit et que c'est posé, les patients, après, à la fin, quand tu leur dis, j'ai réussi, que ça a cicatrisé, limite, ils sont là, bah, merci, hein, parce que c'était pas gagné, hein, il y avait quand même 20% d'échec. Hein. Ou alors, quand ça n'a pas fonctionné, ils sont limite en train de te rassurer en te disant, vous m'aviez prévenu, c'est pas grave, on a tenté, enfin, voilà. Une fois que les choses sont carrées dès le départ et sont dites dès le départ, ça passe.
Ouais. En paro, on pourrait aussi, il y a cette notion aussi d'échec, surtout sur des parodontites avancées. Mais comme il y a une participation du patient qui est très importante sur les maladies parodontales, le patient devient vraiment acteur de sa pathologie. En endo, c'est plus compliqué, tu vois, comment le patient il peut lui aider au succès du traitement.
C'est vrai. Il y a moins la part participative.
Ce que je veux dire par là, c'est que la responsabilité, elle est... On va dire qu'elle est moins partagée.
Elle est moins partagée, mais la responsabilité, elle est dans le choix du traitement quand même. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, que je veux me dédouaner de ça. Souvent, je trouve que les patients ont tendance à tout nous remettre dans les mains.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous feriez, docteur, si vous étiez à ma place? Mais moi, je ne suis pas vous, je ne suis pas à votre place. Donc, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision pour vous. Je vous donne les différentes options. Et après, vous réfléchissez, vous sentez les choses. Tu vois, elle est plus dans la responsabilité de qu'est-ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de me battre pour cette dent ou pas?
Et en plus, ce que je dis est peut-être aussi en train de changer, puisqu'on se rend compte que la pulpe, c'est quelque chose de vivant. Et il y a une interaction aussi avec la santé générale, avec l'environnement, la façon de s'alimenter, et les pathologies chroniques, etc., quoi.
Là, c'est le volet un petit peu frustrant de la spécialité. C'est qu'effectivement, souvent, ils nous sont adressés pour un truc très spécifique. Donc forcément, on va refaire notre diagnostic pour être certain que le problème vienne de là. Mais moi, j'ai mon œil d'omnipraticienne qui me donne envie de regarder partout, quoi. Et des fois, je fais encore un petit peu de prévention, mais je trouve que je sors de mon domaine d'action. C'est pas à moi de faire ça, quoi, normalement.
Je pense qu'on peut tous prendre en charge une partie de prévention. Le discours, et on le répète jamais assez. Après, c'est du temps qu'on prend, effectivement, sur le temps de travail. Mais je pense qu'au contraire, je pense que plus les messages... circuleront et puis même c'est peut-être délicat, on va dire, dans la façon de l'amener, mais peut-être que toi tu constates des choses avec ton regard d'omnipraticienne sur le patient que le correspondant qui te l'a adressé n'a pas remarqué. Est-ce que ça c'est quelque chose, tu vas lui en parler par exemple en disant là
Ah oui j'en parle, surtout aussi sur le volet de l'occluso, qui est aussi une discipline que j'aime bien. Et je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, pour une des résorptions, quand il y a des cas de résorption, les patients se disent « Mais pourquoi j'ai ça ?» Donc, on va essayer d'aller comprendre le côté... certes, c'est multifactoriel, mais parfois, il y a quand même des causes qui peuvent être levées. Et donc là, c'est intéressant et on communique avec le patient. On lui dit « Mais vous voyez, vous avez des inversés d'articulés. Donc, forcément, il y a peut-être des choses qu'on pourrait améliorer. » Donc oui, j'en parle.
Là, on l'a un petit peu évoqué, mais je voulais un petit peu plus rentrer dans ce sujet-là. C'est l'aspect de l'endodontiste, la vision qu'on peut en avoir, déjà en tant qu'omnipraticien ou exerçant une autre discipline. et peut-être aussi la vision du patient qui est un côté très technique en fait, parce qu'il y a beaucoup de matériel, notamment le microscope qui vient au-dessus du patient et qui, dans la posture, s'interpose entre le patient. C'est-à-dire qu'il y a, plus ce contact aussi, direct, peut-être aussi tactile, visuel qu'on a avec le patient en omnipratique. Et donc, la vision qu'on a un petit peu de l'endodontiste, et qui est peut-être fausse, et tu vas nous le dire, c'est cette vision en fait, du technicien qui voit le patient une ou deux fois. Donc, il n'y a pas cette relation sur la durée où tu vas gérer un patient pendant des dizaines d'années, peut-être prendre en charge aussi, enfin, voir la famille en consultation. Et qui fait qu'il y a un côté un peu dire, bon, moi, le relationnel, en fait, c'est pas trop mon truc, donc je vais peut-être m'orienter vers l'endodontie parce que y a ce côté est moins prégnant, quoi.
Oui, alors, ça, c'est vrai, hein. Ce côté hyper technique, il existe et il est là. Et effectivement, en plus, avec la digue, il y a encore une distance encore avec le patient. Il est nécessaire. Après, moi, je trouve que quand on reste que là-dedans, on devient des techniciens et puis c'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus épanouissant dans le temps. Mais bon, j'ai réussi justement à... Enfin, j'essaye, je le fais pas avec tous mes patients, mais de temps en temps, ça me fait du bien aussi de débrancher mon cerveau et de me mettre en mode automatique à faire ce que mes mains savent faire, quoi. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à soigner donc, les patients phobiques ou complexes ou avec des petites ouvertures buccales où il y a un peu plus de challenge et où je sais que je vais avoir besoin de la coopération du patient et que si j'ai besoin de la coopération du patient, j'ai besoin d'installer une relation de soins de confiance. Et donc ça, pour moi, ça se fait en plusieurs étapes. Ça se fait lors de la première consultation. Ça se fait au moment de l'anesthésie où je prends vraiment un temps particulier avec eux et ça se fait après le soin dans le renforcement positif du comportement qu'ils ont eu pendant le soin, quoi. De se dire mais là ce que vous avez fait c'est super, donc souvenez-vous que vous êtes capable de le faire.
Et ce côté on va dire collectif, ce côté entraide, solidarité, confraternité qui tient énormément à cœur. Déjà, tu en as parlé tout à l'heure, ton arrivée à la fac dentaire où tu as tout de suite cherché à créer du lien. C'est quelque chose que l'endodontie t'a permis de retrouver aussi dans ta pratique.
C'est vrai que effectivement, ça m'a permis de retrouver ça. Donc, moi, en plus, j'étais toute seule dans mon cabinet. Donc, ça m'a rouvert un petit peu aux autres. C'était... J'avais un peu peur de ça quand je suis passée en exercice limité. La relation correspondant, je me disais, mais qui je suis, moi, pour donner des leçons ou me positionner en... Voilà, j'avais un peu du mal avec cette figure d'autorité. J'avais pas l'impression de valoir plus. D'ailleurs, je ne considère pas que je vaux plus. C'est juste que j'avais développé une compétence spécifique. Mais aujourd'hui, avec certains correspondants, j'apprécie parce que souvent, on s'appelle le soir quand ils ont des problèmes X ou autre au cabinet avec des patients ou qui veulent des conseils. Et ça, je trouve ça chouette parce que finalement, il y a une entraide, il y a une solidarité. Ça leur permet d'avoir un œil extérieur. Et des fois, ils me renvoient des petits messages en me disant « Mais merci !» Hier, j'ai reçu un petit message. « Merci pour ton recadrage, du coup, j'ai changé de prothésiste. » Et je me disais « Mais bon, que j'avais pas perçu. » Moi, j'ai pas l'impression de recadrer les gens, mais juste d'avoir... Voilà, cet œil de recul dans cette profession qui est très individuelle, je trouve que c'est riche. Et ça, je ne l'avais pas avant, quand j'étais omni. Et... Après, dans notre région, on a de la chance quand même parce qu'il y a un petit collectif de praticiens qui s'est créé, qui se regroupent plusieurs fois par an pour justement parler de leur cas et où on peut échanger. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment génial.
Et toute discipline confondue?
Là, c'est toutes disciplines confondues, ouais.
Qui a été à l'initiative de ça? Ça s'est construit comment?
Des praticiens qui sont devenus amis, en fait, à force de faire des formations ensemble et qui se sont dit, tiens, et si on essayait de créer de créer quelque chose comme ça pour échanger sur nos cas. Puis de fil en aiguille, ils poussent les choses toujours un petit peu plus loin. Il y a de l'auto-émulation là-dedans, donc c'est chouette. Ouais, c'est chouette.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu es dans un cabinet qui est assez conséquent. Vous êtes combien de praticiens? 6?
Alors, oui, on est 4 praticiens titulaires et il y a 2 praticiennes qui font la maintenance parodontale. Donc, on est un cabinet uniquement spécialisé. Donc, il y a un paro, une paro, un implanto et 2 endodontistes. Donc, les patients qui viennent nous voir ne sont que des patients adressés.
Comment ça s'est fait, cette rencontre entre vous et cette envie d'association?
Alors, ce cabinet, moi, je ne suis pas la créatrice de ce cabinet. En 2016, quand j'avais construit le mien, finalement, celui-ci, je l'ai revendu à mon collaborateur. Quand j'ai décidé de basculer dans l'exercice limité, il y a le docteur Ardouin qui était sur Poitiers, qui partait à la retraite. Très certainement à lui que tu avais dû adresser.
Exactement.
À l'époque.
Exactement, ça y est, ça vient de faire tilt.
Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, que c'était plus facile pour moi de quitter mes patients d'omnipratique en me déplaçant, en allant ailleurs, que de leur dire du jour au lendemain, je suis là, mais je ne vous soigne plus. Mmh. Ça, c'était quelque chose de difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai préféré quitter le cabinet et d'aller donc rejoindre cette équipe qui était déjà formée. Et où il y a le docteur Vidal qui est aussi endodontiste. Et c'est appréciable de pouvoir aussi échanger comme ça sur nos cas.
Et le docteur Vidal qui n'est pas que endodontiste aussi, qui a une super chaîne.
Pas mal de casquettes.
Ouais, qui a beaucoup de casquettes et qui a une chaîne YouTube et qui communique beaucoup sur des sujets passionnants. Alors plus à viser peut-être du grand public, mais qui vraiment peut, qui peut intéresser beaucoup de personnes parce que c'est pointu. Je veux dire, c'est recherché, c'est étayé, c'est très intéressant. Ça sera
tout
peut-être l'occasion un jour de faire quelque chose ensemble. qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur toi, sur qui tu es, sur ta relation avec ton métier, avec les patients, ce changement de paradigme, en fait, ce changement aussi de discipline?
Alors, plein de choses, hein. Sur moi, ce qui a été difficile, c'est que je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et vraiment, le perfectionnisme, c'est bien, mais ça a beaucoup de travers. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de l'endo, moi, j'étais jamais, jamais satisfaite de moi, quoi. Soit j'avais pas le petit puff qui me certifiait que j'avais bien désinfecté jusqu'au bout, soit j'avais le puff et je me disais, ah là là, il est trop gros, t'as irrité le périapex. Enfin, ça n'allait jamais. Il y a une petite bulle, il y a un truc, voilà. Donc, des exigences qui faisaient qu'en fait, j'étais pas spécialement satisfaite, alors que c'était bien, hein, franchement, toute honnêteté. Mais voilà, intérieurement, ça m'a un peu plombée au départ. Et je pense que du coup, grâce au fait justement que il y a pas d'obligation de résultat, que je sais que je fais du mieux que je peux, et que cette notion de faire du mieux qu'on peut, c'est fonction d'un instant T, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, aujourd'hui, c'est ça, et c'est comme ça, et accepte ce que tu as fait, et parce que peut-être aujourd'hui, tu étais plus fatiguée, parce que peut-être aujourd'hui, il y avait des conditions qui n'étaient pas réunies, parce que tout simplement, des fois, tu as des dents et des os, et tu ne peux pas avancer, et puis c'est comme ça. Donc, ça m'a appris vraiment à accepter ce qui est, à lâcher un peu le contrôle.
L'imperfection, quoi.
Ah, ouais,
accepter
ouais,
l'imperfection.
Ouais. Mais ça, c'est pas facile. Hein. Le truc qui revient souvent quand même un petit peu. Mais je pense que c'est vraiment le gros du travail, c'est ça, sur moi.
On est quand même très calibré pour ça dans nos études, finalement. Mais c'est normal. C'est pas une critique que j'aimais, mais... toute notre parcours universitaire vise à ce qu'on soit les meilleurs techniciens possibles.
Oui, mais ça a du bon. Ça a du bon, ça nous pousse à nous dépasser, ça a du bon, sauf quand ça commence à te bouffer de l'intérieur. Et si ça commence à te miner le moral, là, il faut vraiment se poser les questions. Enfin, voilà, prendre un pas de recul et se dire... Surtout en endo, je veux dire, le patient, il ne se rend pas compte, il ne voit pas. Donc, et puis, d'une manière générale, même dans leur bouche, ils sont souvent moins exigeants que nous. Hein. Enfin, moi, je ne fais pas d'esthétique, je ne suis pas non plus au détail près de devant, etc. Mais là, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'exigences dans l'esthétique. Mais le patient, je pense qu'il a moins d'exigences que nous.
Le patient, ça dépend lesquels, mais cette demande, elle est des fois un peu induite aussi. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on peut entendre dans des formations, de dire, moi j'exerce dans une ville de campagne où il n'y a pas la demande. Bon, en fait, on va te dire, crée la demande. Mmh. Et c'est vrai que le patient, si tu commences à lui mettre l'œil sur quelque chose, il va peut-être avoir envie de faire de la muco-gingivale, des facettes et tout ça. Mais je pense que la plupart des patients qu'on soigne, ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas avoir mal.
Et du confort.
Ne pas aussi peut-être faire des dépenses excessives, et ça peut, c'est entendable. Et puis avoir une fonction qui soit correcte, quoi. Et d'avoir des dents pour sourire, effectivement. Mais le micro-détail, peut-être aussi à nous poser la question, est-ce que c'est pas des fois de la demande induite, quoi ?
C'est surtout de la comparaison. On est tout le temps plus ou moins en train de se comparer. C'est ça, le jugement. Alors on se dit, faut pas se comparer, faut pas juger les autres, et on se juge soi-même. On est toujours en train de s'auto-juger. À quelle note je vais me mettre aujourd'hui ?
Vous venez d'écouter la première partie de la série avec Marion Maigli du podcast Entretien avec un dentiste. Le montage est de Pauline Bussy, le son libre, la musique Django et de Mr. Smith. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 2 dans lequel Marion nous racontera son vécu en tant que patiente et ce que ça a changé dans sa pratique.